VOA Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
16h à Bamako, 17h à Brazzaville, bienvenue à notre journal. Conflit syrien, l'aviation turque a abattu un avion de chasse russe à la frontière avec la Syrie. Ankara accuse la Russie d'avoir violé son espace aérien, tandis que Moscou affirme que l'appareil était en territoire syrien. Plus de détails avec Lionel Gaïma.
Les responsables militaires turcs affirment que leurs F-16 ont abattu l'avion de chasse après qu'il eut ignoré 10 avertissements en l'espace de 5 minutes. Le premier ministre turc Ahmet Davutoglu a fait savoir que son pays avait le droit d'agir contre toute violation de son espace aérien. Réagissant à cet incident, le président russe Vladimir Poutine a dit que l'appareil était en territoire syrien, à 1 kilomètre de la frontière turque, quand il a été frappé et qu'il n'a jamais menacé la Turquie. M. Poutine a accusé la Turquie de poignarder la Russie dans le dos, selon ses termes, et de soutenir le terrorisme, y compris le groupe État islamique, a-t-il déclaré, lors d'une rencontre avec le roi de Jordanie, Abdullah II, à Sochi. Selon Vladimir Poutine, la Russie a noté depuis longtemps une grande quantité de pétrole et produits pétroliers qui entrent en Turquie à partir du territoire occupé par le groupe État islamique en Syrie, procurant ainsi un important soutien financier aux terroristes. L'incident aura des graves conséquences pour les relations turco-russes, a-t-il averti.
Moscou a annulé la visite en Turquie du ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov, qui devait avoir des consultations avec son homologue turc demain à Ankara. Le gouvernement russe demande aussi à ses ressortissants de ne pas se rendre en Turquie à cause, dit-il, de la menace du terrorisme dans le pays. L'avion russe a été abattu alors que le président américain Barack Obama reçoit en ce moment même à Washington, à la Maison-Blanche, son homologue français François Hollande, qui est arrivé ce matin dans la capitale américaine. Les précisions de John Lindon.
Les deux leaders discutent du renforcement de la coopération au sein de la coalition dirigée par les États-Unis, qui mène depuis plus d'un an des raids aériens contre le groupe État islamique en Irak et en Syrie. Avant de quitter Paris pour Washington, le président Hollande s'est entretenu lundi à l'Élysée avec le premier ministre britannique David Cameron. Ce dernier s'est engagé à étoffer la coopération avec les alliés du Royaume-Uni contre les terroristes. Nous faisons face à une menace commune et nous devons partager les informations et les renseignements afin de mieux nous protéger contre ces terroristes brutaux. Le Royaume-Uni et la France le font déjà, mais aujourd'hui nous avons convenu d'intensifier encore nos efforts et de travailler plus étroitement avec les voisins européens. David Cameron a indiqué qu'il demandera au Parlement britannique d'approuver l'expansion du rôle du Royaume-Uni en Syrie pour y inclure des raids aériens. Le président Hollande a fait savoir de son côté que l'armée française intensifiera ses raids aériens en Syrie.
Burkina Faso, le 29 novembre, les Burkinabés se rendent aux urnes pour choisir leurs députés et aussi le successeur de l'ex-président Blaise Compaoré, chassé du pouvoir en octobre 2014. Sur place, des observateurs s'activent pour assurer le bon déroulement de ces élections. Exemple, les observateurs de l'UMO à l'Union économique et monétaire ouest-africaine, dont le leader est Christophe Tchao. On l'écoute au micro de notre envoyé spécial Bagassi Koura.
Oui, nous sommes prêts. Comme je vous l'ai dit, depuis le 20 novembre, nous sommes arrivés et nous sommes aujourd'hui bien organisés. On a mis tout en place pour un bon suivi de ces élections-là. Nous sommes entièrement prêts et nous pensons que le travail que nous sommes en train de faire va porter ses fruits. Nous sommes 14. Nous sommes 14 venant de 7 pays de l'UMO et pour cette observation, pour ces élections-là.
Christophe Tchao, leader de la délégation des observateurs de l'UMOA. À l'approche des élections du 29, la sécurité a été renforcée à Ouagadougou. Des précisions avec Bagassi Toura, qui se trouve dans la capitale burkinabé.
Oui, c'est un communiqué du ministre délégué à la sécurité, Alain Jean-Claude Zagré. Un communiqué qui rappelle aux populations que le couvre-feu est toujours maintenu, le couvre-feu qui a été instauré depuis le coup d'État du 16 septembre dernier, qui va de 1h du matin à 4h du matin. Donc le ministre de la Sécurité qui rappelle donc cette mesure qui date depuis septembre. Mais aussi, le ministre de la Sécurité rappelle que les contrôles d'identité seront désormais organisés deux jours comme demi. Mali, c'est ce que souligne le communiqué, par les forces de sécurité. Donc en ce moment, dans les rues de Ouagadougou, à chaque carrefour, il y a des forces de sécurité qui contrôlent non seulement les pièces d'identité des passants, mais aussi des véhicules qui sont passés au crible, les forces de sécurité qui fouillent les véhicules, donc pour s'assurer que ces élections se déroulent dans la quiétude totale.
Notre envoyé spécial au Burkina, Bagassi Koura. Appel à l'aide du Libéria aux États-Unis pour faire la lumière sur de nouveaux cas d'Ebola confirmés la semaine dernière. Plus de précisions avec Michel Joseph.
Deux experts des centres américains de contrôle et de prévention des maladies s'apprêtent à se rendre au Libéria, a fait savoir le docteur Francis Katay, au responsable de la santé et chef intérimaire du programme libérien de gestion des cas de fièvre hémorragique. Leur mission, faire la lumière sur trois nouveaux cas détectés plus de deux mois après que le pays a été déclaré exempt d'Ebola. Le premier malade est un adolescent de 15 ans, habitant Monrovia, la capitale. Son père et son frère ont eux aussi testé positif au virus Ebola et ont été acheminés vers un centre de traitement, en même temps que sa mère et deux autres enfants de la famille. Selon le ministre libérien de la Santé, que cite l'agence AP, plus de 150 personnes courent des risques du fait des nouveaux cas, y compris une dizaine d'agents de santé. Les nouveaux cas libériens ont été annoncés quelques jours après que la Guinée, point de départ de l'épidémie, a annoncé n'avoir plus de cas, entamant le compte à rebours de 42 jours avant d'être déclaré libre de l'Ebola. La Voix de l'Amérique, en direct de Washington.
L'agitation au Burundi. Le président Barack Obama a imposé des sanctions contre quatre Burundais pour leur rôle dans les troubles actuels dans le pays. L'ordonnance publiée hier par la Maison-Blanche parle de restrictions de circulation et de gel des avoirs. Nous retrouvons Lionel Gaïma.
L'ordonnance du président Obama gèle tout avoir que les quatre pourraient avoir aux États-Unis et leur interdit l'accès du territoire américain. Sont concernés Alain Bougnoni, ministre de la Sécurité publique, Godefroy Bizimana, directeur adjoint de la police nationale, Godefroy Niyombare, ancien chef du renseignement, et Cyril Ndayirukiye, ex-ministre de la Défense. Les États-Unis accusent Bougnoni et Bizimana de mener des opérations pour intimider et réprimer les opposants au président Pierre Nkurunziza. Quant à Niyombare et Ndayirukiye, Washington leur reproche d'avoir contribué à l'instabilité au Burundi en tentant de renverser M. Nkurunziza en mai dernier. À noter que l'Union européenne et l'Union africaine ont déjà pris des sanctions contre les mêmes quatre Burundais. Dans une déclaration hier, le porte-parole du Conseil national de sécurité, Ned Price, a exhorté toutes les parties en présence au Burundi à rejeter la violence et à participer au dialogue sous la médiation internationale et à l'étranger pour sortir de la crise. Il a averti que les États-Unis pourraient prendre des sanctions contre toute personne qui bloque les efforts de paix ou a recours à la violence.
En Algérie, incendie dans un foyer de migrants à Ouargla, dans le sud du pays. Bilan 18 morts et 43 blessés. Plus de détails avec Brahim Takeloub, directeur de rédaction du quotidien L'Expression à Alger, au micro de Chérubin Dorsil.
Ça s'est passé plus exactement dans la wilaya de Ouargla, à près de 800 km de la capitale Alger. C'est au sud du pays. La wilaya de Ouargla est connue pour être la wilaya pétrolière. C'est le poumon pétrolier de l'Algérie. Donc ça s'est passé aujourd'hui, mardi, 3h du matin. Ça s'est passé dans cette wilaya, effectivement. C'est dramatique. Donc, vous savez, des accidents de ce genre, ils sont regrettables et condamnables. Mais c'est rare et heureusement que c'est rare. Sinon, si ce n'était pas rare, ma foi, ce serait terrible pour l'humanité.
L'Algérie est devenue une destination de choix, dirait-on, pour les migrants subsahariens depuis quelques années.
Tout à fait. Vous savez que l'Algérie actuellement est entourée par une ceinture de feu. Toutes les frontières de l'Algérie sont des zones de tension. Il se trouve que l'Algérie est une zone où il y a la stabilité économique, politique et sociale. Il est tout à fait évident que les migrants fuyant la guerre, fuyant la famine, fuyant l'insécurité, se dirigent, convergent vers cet îlot de stabilité, de calme.
Brahim Takeloub, directeur de rédaction du quotidien L'Expression à Alger. Et pour terminer, l'enquête sur les attentats de Paris, l'homme soupçonné d'avoir fourni un logement de repli aux djihadistes belgo-marocains Abdelhamid Abaoud après les attentats va être présenté à un juge aujourd'hui. C'est ce qu'a indiqué une source judiciaire. Le logeur présumé Jawad Ben Daoud avait été arrêté le 18 novembre dans la rue à proximité immédiate de l'appartement de Saint-Denis pris d'assaut par les policiers d'élite. Plus d'infos sur notre site internet voafrique.com ou alors sur notre page Facebook.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.